Bonjour et bienvenue à tous, petits et grands, dans Histoire missionnaire protestante, une émission où vous allez découvrir des histoires vécues par des protestants, des hommes et des femmes de l'Église de Jésus-Christ, ainsi que les récits bibliques à l'origine de leur foi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, petits et grands. Es-tu déjà allé en colonie de vacances ? Écoute cette histoire de Stéphane et Thomas, qui n'est qu'une illustration. Stéphane et Thomas vivent dans le même bâtiment. Ils vont ensemble à l'école et au club biblique et jouent dans la même équipe de foot. Cette année, pour la troisième fois, ils participent à la même colonie de vacances. Il y a 2 ans, lors de cette colonie, les deux garçons ont compris leur besoin d'un sauveur. Stéphane a dit à Thomas, « Ce moniteur d'école du dimanche m'a vraiment fait réaliser pourquoi Jésus est mort pour nous. » « À moi aussi, » a répondu Thomas. « J'ai toujours entendu dire que Jésus est mort pour les péchés du monde, mais je n'ai jamais pensé qu'il est mort pour mes péchés. »« Moi non plus, » dit Stéphane. Cette nuit-là, les deux amis ont demandé au Seigneur Jésus de leur pardonner et l'ont reçu comme leur sauveur. Ainsi, ils sont devenus membres de la famille de Dieu, l'Église. Stéphane et Thomas sont plus que de bons amis. Ils sont frères dans la grande famille de Dieu, frères en Christ. On peut comprendre leur déception quand le directeur de la colonie les sépare et leur donne une équipe différente à chacun pour la fameuse chasse au trésor. « C'est sûr, Thomas gagnera en travaillant avec Eric, » pense Stéphane. « Mais moi, avec André, comme coéquipier, nous ne parviendrons jamais à réunir les 30 objets en 30 minutes. » Les règles précisent que les coéquipiers doivent aller partout ensemble. André porte un appareil à sa jambe droite et boite un peu. Stéphane essaie de cacher sa déception et de garder sa langue, alors qu'avec André, il considère la liste des objets à trouver et décide par où ils vont commencer. Ils trouveront un timbre, un chewing-gum et un marque-page dans leur sac à dos. Ils devront aller vers le lac pour trouver 3 pierres de la même taille et, avec un peu de chance, un crapaud vivant. Dans les bois, ils chercheront une plume et une fleur. Il ne sera pas trop difficile de prendre une graine de pastèque à la sortie de la salle à manger. Leurs plans sont encore incomplets quand le directeur crie « Partez !» Les équipes se dispersent dans toutes les directions. André court plus vite que ne l'aurait pensé Stéphane. Ils rient bien ensemble quand ils trouvent les choses demandées et les jettent dans leur sac. La cloche sonne pour annoncer la fin des 30 minutes. Il manque encore 4 objets à Stéphane et André. Dès que Thomas voit Stéphane, il lui demande « Avez-vous pu trouver un crayon jaune ?» Stéphane sourit à André et hoche la tête en signe de « oui ». C'est la seule chose qui manque à l'équipe de Thomas et Eric. Peu de temps après, les deux amis, Thomas et Stéphane, se retrouvent et boivent un coca sous un arbre. « Désolé que tu aies dû faire équipe avec André, » dit Thomas. « Je ne le suis pas. » « Vraiment ? Mais si nous avions été ensemble, nous aurions gagné tous les deux. » « Peut-être, » dit Stéphane. Mais je ne crois pas que nous aurions pensé à chercher un crayon jaune dans le bureau du maître nageur. André a eu cette bonne idée. Ainsi, c'est là que vous l'avez trouvé. Oui. Et avec André, nous avons eu beaucoup de joie et de fou rire. Stéphane dit des choses gentilles et encourageantes au sujet de son ami André. Imaginons comment il aurait pu parler d'André s'il n'avait pas voulu mettre une garde à sa bouche. « Il est lent, il est stupide, à cause de lui, nous avons perdu !» Alors que, par ses paroles gentilles, Stéphane encourage Thomas à aimer André et à l'apprécier. Même si cette histoire n'est qu'une illustration, elle nous aide dans la vraie vie à comprendre comment nous devons nous parler les uns aux autres au lieu de dire ce qui peut blesser nos amis, chrétiens ou pas. D'ailleurs, la Bible, parole de Dieu, est claire à ce sujet. Elle dit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29,
« Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. »
N'as-tu jamais dit à ta maman « C'est pas juste, tu ne me laisses pas aller à la piscine avec mon copain ?» Quand maman refuse de te laisser faire quelque chose que tu lui demandes, il faut réfléchir avant de parler. Que pourrais-tu trouver à dire qui soit bon ? Par exemple, « D'accord, maman, tu dois avoir une bonne raison, peut-être une autre fois. C'est normal d'être déçu parfois, mais ne dites rien qui puisse faire de la peine à vos parents. Peut-être as-tu dit quelque chose comme « Marc pense que sa bicyclette est vraiment super, mais s'il voyait la mienne ?» Des mots dits avec orgueil, ce sont des propos méchants. Quand un de tes amis a quelque chose de neuf, comment peux-tu en parler ? Par exemple, est-ce que Marc t'a dit qu'il a un nouveau vélo ? C'est super, non ? J'espère qu'il aime autant que j'aime le mien. Réjouis-toi du bonheur des autres. N'emploie pas des mots pour essayer de te donner plus d'importance que les autres. N'as-tu jamais dit « Qu'est-ce que je suis content que Jennifer ne soit pas ma sœur ? Je ne supporte pas cette fille !» Ce que tu dis là, ce sont des mots dits avec méchanceté. Qu'aurait-il fallu dire au sujet de Jennifer ? Peut-être valait-il mieux ne rien dire du tout. Si vous croyez tous deux en Jésus, elle est ta sœur en Christ. Il faut penser à quelque chose de gentil à dire à son sujet. Il y en a sûrement. Choisis de dire des choses qui encouragent et non pas qui détruisent, ni qui flattent d'ailleurs. Dieu nous répète souvent d'être prudents dans ce que nous disons. Le verset 3 du psaume 141 dans la Bible nous dit « L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Fin de citation. C'est dur de faire attention à nos paroles. Parfois, certaines choses nous échappent trop vite. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. La Bible nous donne cette prière que nous pouvons faire souvent. « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, j'ai besoin de toi. » Vous avez certainement déjà vu un vigile, un gardien, monter la garde devant une banque ou une usine. Pourquoi est-il là ? Pour empêcher aux gens mal intentionnés d'entrer dans la banque ou dans l'usine, n'est-ce pas ? Eh bien, dans cette prière, nous demandons à Dieu de se placer comme un soldat armé devant la porte de nos lèvres pour empêcher aux paroles méchantes et blessantes d'en sortir. Pourquoi Dieu fait-il si attention à ce que nous pouvons dire ? Nos paroles peuvent encourager quelqu'un ou le décourager. Elles peuvent aussi bien blesser quelqu'un qu'apaiser son cœur. Voici ce que dit la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 18. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Fin de citation. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, de ceux qui ont accepté que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés et qui se sont repentis, eh bien nous ne devrions dire que des mots pleins de douceur et d'encouragement aux autres. Souvent dans la Bible, nous trouvons des paroles d'encouragement pour les autres. L'apôtre Paul, le missionnaire dont parle la Bible, il allait de lieu en lieu pour dire aux gens comment ils pouvaient être sauvés et devenir membres de la famille de Dieu. Quand les gens avaient cru en Jésus comme leur sauveur, Paul les a aidés à former une église où ils pourraient adorer Dieu ensemble. Quand Paul quittait une de ces églises pour continuer ses voyages, il n'oubliait pas ses nouveaux frères et sœurs en Christ. Il leur écrivait des lettres. Dans celles-ci, il leur disait souvent qu'ils étaient en Christ. Ceci devait leur rappeler qu'en recevant Jésus comme leur sauveur, ils étaient devenus membres de la famille de Dieu. Nous avons 13 de ces lettres de Paul dans la Bible. Écoutez quelques paroles que Paul a écrites à ses frères et sœurs chrétiens de la ville de Rome dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Fin de citation. N'est-ce pas encourageant ? Il leur dit que leur confiance en Dieu est si grande que partout les gens en parlent. Si ta foi en Dieu est forte, d'autres dans ta famille, parmi tes voisins ou tes copains de classe, vont le remarquer. Paul cherchait de bonnes choses à dire, et nous devons faire de même. Et voici encore un extrait de la lettre qu'il a écrite cette fois à l'église d'Éphèse. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Fin de citation. Paul ne mentionne pas seulement leur foi, mais aussi leur amour les uns pour les autres. Croyez-vous que les autres remarquent si l'amour existe entre les chrétiens ? Bien sûr que oui. Ils ne verront pas d'amour si nous nous parlons avec colère, ou si nous parlons mal les uns des autres, ou si nous sommes orgueilleux et ne parlons que de nous. Paul leur disait aussi qu'il priait pour eux. Quel encouragement ! Nous devrions prier pour que les membres de la famille de Dieu se parlent bien entre eux et s'encouragent. Voici encore deux autres extraits de l'épître de Paul aux Éphésiens. Premièrement, Éphésiens chapitre 4, verset 29.
C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Dans sa lettre, Paul rappelle aux Éphésiens que les chrétiens sont les membres du même corps, celui de Christ, membres de la famille de Dieu. Il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 25.
C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Et voici un extrait de sa deuxième lettre à l'église de Thessalonique. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Encore, Paul dit de bonnes choses de ces gens. Parce que les chrétiens sont membres de la famille de Dieu, ils doivent se parler avec gentillesse. Un jour, Paul a écrit à un homme nommé Philémon, et on trouve sa lettre dans la Bible, dans les versets 4 et 5. Voici ce qu'il dit. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Fin de citation. Paul remerciait Philémon à cause de l'amour qu'il montrait à tous les saints, c'est-à-dire à tous ceux de la famille de Dieu, l'Église. Selon la Bible, les saints sont tous les chrétiens qui ont reçu le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Paul priait pour son ami et l'encourageait par de bonnes paroles. Paul a écrit beaucoup d'autres choses. Il rappelait aux gens ce que Dieu attendait d'eux et les avertissait de ce qu'ils ne devaient pas faire. Il leur parlait avec vérité, mais aussi avec amour. Quand Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, il a beaucoup parlé de l'amour. Lisons dans la Bible, première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 8, en nous rappelant que Jésus-Christ, il est l'amour.
« Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie.
La merveilleuse nouvelle est que si tu es chrétien, chrétienne, membre de la famille de Dieu, Jésus vit en toi et il peut produire cet amour en toi. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne dois pas raconter des histoires à son sujet qui peuvent lui faire de la peine ou pousser ceux qui t'écoutent à mépriser ton ami. Tu ne dois pas le traiter de tous les noms. Tu ne dois pas l'insulter quand il fait quelque chose qui te déplaît. Mais l'amour, c'est plus qu'une chose à ne pas faire. L'amour est un mot d'action. Cherchons de bonnes choses à dire. Encourageons nos frères et sœurs en Christ. Parlons-leur avec gentillesse. Toi aussi, passe à l'action. Et voici ce que tu peux faire cette semaine, si tu veux. Prends une carte et écris un message à quelqu'un que tu connais. Par exemple, je t'écris ces mots pour te dire que je suis heureux de t'avoir pour ami. Ou encore, je t'écris ces lignes pour te dire que Dieu t'aime et moi aussi. Relis 1 Corinthiens 13 chaque jour de la semaine et essaye spécialement d'utiliser des mots qui expriment la gentillesse. Sois patient envers les autres. Demande à Dieu de t'aider à ne pas être envieux et jaloux. Ne sois pas orgueilleux quand tu parles. Ne prononce pas de mots méchants ou blessants. et force-toi de rester calme, que la colère ne te domine pas et ne te fasse pas dire de méchanceté. Sois sûr de ne dire que la vérité quand tu parles. Confie-toi en Dieu et montre cela par ce que tu dis. Mais si tu essaies de faire ceci chaque jour, par toi-même, eh bien, tu verras que tu n'y arriveras pas tout seul. Tu as vraiment besoin du Seigneur Jésus. Il est le seul à avoir toutes ces qualités. S'il est ton sauveur, il habite en toi et tu peux faire appel à lui pour t'aider. Il est ressuscité, ça veut dire vivant pour toujours. S'il n'est pas encore ton sauveur et tu sais que tu as besoin de lui, aujourd'hui même tu peux te confier en lui. Reconnais que tu lui as souvent désobéi en lui demandant pardon et remercie-le de s'être fait punir volontairement à ta place sur la croix. C'était l'émission Histoire missionnaire protestante, des histoires vraies vécues par des chrétiens protestants ainsi que des récits bibliques à l'origine de leur foi.